Merci d'écouter RFI. Il est 14h en temps universel, 15h ici à Paris, une heure de plus à Gaza.
Simon Bourtembourg.
Un plan de cessez-le-feu validé par le Hamas et Israël. La trêve dans la bande de Gaza entrera en vigueur demain dimanche à 6h30 temps universel. Dès demain donc, 3 otages israéliens devraient être échangés contre 95 prisonniers palestiniens. La course aux invitations. Donald Trump sera introduit président des États-Unis lundi devant un parterre d'invités. À l'image ce matin de l'italienne Giorgia Meloni, moult figures de l'extrême droite européenne ont fièrement confirmé leur participation à l'événement. Dans cette édition, nous décrypterons également un rapport de l'ONG Human Rights Watch sur la situation des droits de l'homme aux Philippines. Et puis un macaron brandi fièrement pour améliorer l'image de marque de Kerminz, la ville de Saxe en Allemagne et capitale européenne de 2015. Compte à rebours dans la bande de Gaza, le cessez-le-feu validé par le Hamas et Israël doit entrer en vigueur demain dimanche à 8h30 heure locale. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le Qatar, l'un des médiateurs de cet accord. La trêve doit ainsi mettre un terme à 15 mois de guerre et permettre la libération des otages en échange de celle de centaines de détenus palestiniens en Israël. C'est un plan en 3 phases qui a été acté. À Jérusalem, la correspondance de Michel Paul.
737 prisonniers palestiniens en tout seront libérés sur une période de 42 jours. Lors de la première phase de la mise en œuvre de l'accord, 30 détenus pour chaque otage civil libéré par le Hamas, 50 prisonniers palestiniens pour chaque soldat qui va recouvrer la liberté. Libérables également plus d'un millier de Gazaouis incarcérés depuis le début de la guerre et qui ne sont pas impliqués dans les événements du 7 octobre. Le nom le plus connu sur la liste est celui de Zakaria Zoubeidi, ex-leader des brigades des martyrs d'El-Aqsa, la branche armée du Fatah, une figure emblématique de la seconde intifada. Il s'était illustré en 2021 en s'évadant par un tunnel d'une prison de haute sécurité israélienne avec 5 de ses co-détenus. Il a déjà bénéficié dans le passé d'un autre échange. Ce matin, le ministère israélien de la Justice a présenté une liste de 95 noms des femmes et des jeunes palestiniens qui seront les premiers à être libérés. En principe, cela doit se dérouler demain en fin d'après-midi dans le cadre du premier échange. Un scénario qui devrait se répéter donc pendant au moins 6 semaines et si tout va bien, peut-être encore plus. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et pour l'heure, dans l'enclave palestinienne, les bombardements se poursuivent. Les médecins de Gaza assurent que 5 personnes sont mortes ce matin dans le quartier de Mawassi, à l'ouest de Khan Younes. Par ailleurs, toujours ce matin, l'armée israélienne fait savoir que le sud de Jérusalem a été visé par un projectile lancé depuis le Yémen. Un tir revendiqué il y a quelques minutes par les rebelles houthis, alors que des sirènes retentissent en ce moment dans le sud d'Israël. Là encore, un projectile tiré depuis le Yémen est en question. Moscou revendique des frappes sur un site militaire à Kiev, la capitale ukrainienne victime cette nuit donc d'une attaque russe. Le chef de l'administration militaire de Kiev annonce ce matin 4 morts et 3 blessés. L'armée russe se félicite par ailleurs de la capture de 2 villages, cette fois dans l'est de l'Ukraine. RFI, 9h, passé de 3 minutes à Washington, la capitale américaine où lundi, faute du froid polaire, Donald Trump prêtera serment à l'intérieur du Capitole et non pas à l'extérieur, sur les marches, comme le veut l'usage. De nombreuses personnalités politiques feront le déplacement pour le retour du républicain à la Maison-Blanche. C'est le cas de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui a confirmé sa présence ce matin. De nombreuses figures mondiales de l'extrême droite européenne, à l'image aussi de l'Argentin, cette fois Javier Milei, seront à Washington. Un homme brillera, lui, par son absence, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui n'aurait pas reçu d'invitation officielle, selon son porte-parole. À Budapest, les explications de Florence Labruyère.
Officiellement, Viktor Orban n'a pas reçu de carton d'invitation à l'investiture de Donald Trump. Pourtant, le Premier ministre hongrois est un admirateur et un allié du nouveau président américain. Cela fait des années que Viktor Orban, dirigeant souverainiste à la tête d'un gouvernement chrétien, noue des liens avec l'ultra-droite républicaine. L'an dernier, Orban s'est rendu en Floride à 3 reprises pour rencontrer Trump. Et le retour de ce dernier à la Maison-Blanche augure d'un nouvel âge d'or entre la Hongrie et l'Amérique, répète le Premier ministre hongrois. Cependant, il ne sera pas à Washington lundi. Selon le journal Politico, il aurait reçu une invitation personnelle, mais aurait décidé de ne pas se rendre à l'événement. Viktor Orban est un allié de longue date de Donald Trump. Il n'a pas besoin de jouer des coudes dans la foule pour montrer son importance ou sa proximité avec le nouveau président, explique le directeur de cabinet du Premier ministre hongrois. Ce dernier n'a pas vraiment de raison d'aller à Washington, car il ne pourrait pas avoir un entretien en tête-à-tête avec Donald Trump. La journée ne s'y prête pas, ajoute le bras droit du leader hongrois. Et preuve que de toute façon, son agenda est beaucoup trop rempli pour se libérer, Viktor Orban prononcera un discours lundi à Budapest, un discours pour faire le bilan de la présidence hongroise de l'Union européenne. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Et dès ce lundi, l'administration Trump entend procéder à des arrestations massives de migrants illégaux aux États-Unis. Il s'agirait même d'une des premières actions prises par le républicain. C'est en tout cas ce qu'a déclaré ce matin celui qui sera en charge des frontières sous l'autorité de Donald Trump. Donald Trump qui devra par ailleurs se pencher sur la question de l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Le président élu a souligné que la décision en ce sens de la Cour suprême américaine devait être respectée, mais précise avoir besoin de temps. Prenons à présent la direction de Manille, les Philippines, où l'ONG Human Rights Watch a sorti un rapport sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Aux Philippines, les abus persistent, et ce, malgré le récent changement de régime. Si depuis l'arrivée du président Marcos, les droits humains dans l'archipel ont légèrement progressé par rapport au mandat de Rodrigo Duterte, le rapport pointe toujours des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires. Mais aussi le marquage rouge, une pratique qui consiste à cibler et menacer des individus considérés comme des terroristes. Nemo Lecoq James.
Une couleur, le rouge, suffit à devenir une cible de choix du gouvernement. La pratique du red tagging, le marquage rouge, existe depuis des décennies aux Philippines. À l'origine, elle est réservée aux partisans de la nouvelle armée populaire communiste, considérés comme des terroristes, des ennemis jurés de la nation. Mais depuis quelques années, elle cible aussi les militants écologistes, comme l'explique Veronica Cab, activiste et présidente d'Amnesty International aux Philippines.
Eh bien, les défenseurs de l'environnement sont en danger ces dernières années. Ils risquent d'être marqués de rouge, d'être harcelé et parfois même d'être tué.
Depuis l'arrivée au pouvoir de Duterte, l'ancien président des Philippines, le red tagging s'est élargi à tous les types d'opposants au gouvernement, des militants de gauche aux dirigeants autochtones, en passant par certains journalistes ou enseignants. Ils sont menacés et arrêtés au nom d'une loi antiterroriste.
Vous savez, ils peuvent fabriquer des preuves ou manipuler les gens, les organisations pour créer des témoignages contre vous. Ils peuvent vous associer à des organisations rebelles. Donc, si tu es simplement un activiste politique, et qu'ils veulent que tu deviennes un terroriste, tu seras un terroriste.
Jusqu'à présent, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a ignoré les recommandations des Nations Unies visant à abolir le marquage rouge et il nie son utilisation. Nemo Lecoq James, Manille, RFI.
Un macaron brandi fièrement pour améliorer l'image de marque de Kermitz. La ville de Saxe, en Allemagne, est la capitale européenne de la culture en 2025. Une ville pour l'instant connue pour son buste de Karl Marx, sa population la plus âgée d'Allemagne, mais aussi ses défilés de l'ultra-droite. Pascal Thibault.
225 projets, 1000 événements, 900 acteurs de la société civile qui ont promu leurs projets à Chemnitz, mais aussi dans la région. La conférence de presse n'a pas lésiné ce matin sur les superlatifs pour présenter le programme de la capitale européenne de la culture 2025. À l'heure des questions, ce sont surtout les chasses à l'homme contre des migrants en 2018 et l'extrême droite qui manifestent aujourd'hui qui ont été thématisées. La ville avait volontairement mis ce douloureux passé dans son dossier de candidature. Seed Unseen, voir ce qui n'est pas visible. Chemnitz, qui s'est imposé contre des villes allemandes plus connues, a choisi ce slogan pour inviter à découvrir une métropole qui n'a pas la meilleure réputation et est un peu oubliée aux confins de l'ex-Allemagne de l'Est. L'ancienne Karl-Marx-Stadt du temps de la RDA communiste, largement détruite pendant la guerre, a un charme rustique, mais un passé glorieux de métropole industrielle dont il reste de nombreuses traces. La richesse d'autrefois explique aussi un patrimoine culturel sous-estimé. 35 ans après la réunification, la ville veut cette année prendre un nouveau départ, se faire connaître et surmonter en partie un passé complexe. Pascal Thibault, Chemnitz, RFI.
Un mot de tennis et de l'Open d'Australie pour refermer ce journal. Jasmine Paolini et Taylor Fritz ont tous deux été éliminés ce samedi au troisième tour de l'Open d'Australie. À noter également le numéro 1 mondial Yannick Sinner qui a lui porté son invincibilité à 17 matchs consécutifs. RFI, 15h, bientôt passé de 10 minutes ici à Paris. C'est ainsi que se referme ce journal.